Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Et si nous appliquions les outils de la préparation mentale des champions pour créer et entreprendre, devenir ainsi des champions du monde de notre monde? Allez, c'est parti! Comment créer ma propre vie et ne pas subir celle que l'on m'a imposée depuis mon enfance? Telle est ma quête. Et moi, je décide de le faire en créant du contenu. Chaque semaine, je partage avec vous des conseils, les résultats de mes expériences, et je pars à la rencontre de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour, et justement, je vais vous aider à créer le vôtre, avec mes contenus, avec ma vision, mon expérience, mon partage. Et vous le savez, je me suis remis au sport il y a quelques années et j'ai rapidement fait les parallèles entre le sport, la création de contenu, l'entrepreneuriat. J'en ai fait des programmes, j'ai fait beaucoup d'épisodes, j'ai fait des formations, j'accompagne beaucoup de gens dans le domaine et logiquement, j'ai poussé mes recherches de plus en plus et je suis désormais certifié en préparation mentale. Parce que la préparation mentale, c'est un domaine qui ne s'applique pas seulement au sport. Je pense que nous avons tous besoin de préparation mentale, que ce soit pour gérer le contenu, que ce soit pour gérer notre entreprise, pour gérer le stress, pour gérer notre relation avec notre entourage, avec notre famille, avec des clients, avec notre, avec nous-mêmes, avec notre propre peur, avec nos émotions, tout ce que nous avons en nous, tout ce qu'il y a autour de nous. En fait, ben, on a besoin de gérer ce mental parce que c'est ce mental qui nous relie avec nous-mêmes et avec tout le monde autour de nous. C'est pour ça que la préparation mentale est un domaine qui est vraiment très 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 intéressant, vraiment très pertinent aussi pour nous quand on veut entreprendre, quand on veut créer du contenu, parce que cet aspect-là, je l'inclus dans mes accompagnements, je l'inclus dans mes coachings, je l'inclus en fait dans tout ce qui concerne aussi le podcasting, la création de contenu, car c'est un outil pour être plus confiant, plus serein, plus efficace, calmer son stress, notamment par exemple calmer son stress avant de parler dans un micro, dans une caméra, avant de recevoir un client. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'une fois par mois environ, je vais vous parler de comment ces outils nous sont utiles dans la création de contenu. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 caractéristiques majeures des champions et leur transposition à la création de contenu, de podcast ou d'une entreprise, de notre activité. Quand on veut devenir entrepreneur, solopreneur, quand on veut lancer notre activité, quand on peut être freelance, quand on veut développer notre activité, et ben en fait, finalement, les caractéristiques des champions nous sont aussi vraiment très utiles. Ces 4 caractéristiques ont été mises en avant par Bertrand Pullman, professeur de sociologie et spécialiste des questions de sport et de santé, dans son livre Hyperformance. Oui, j'ai failli dire hyperperformance parce qu'en fait, c'est une contraction de hyper et performance, donc hyperformance, qui est une performance, comme le montre bien le hyper, qui est exceptionnelle et dont le niveau est même plus élevé que l'objectif prévu. C'est un peu ce qu'on pourrait dire de la sublimation quand les athlètes se subliment. Un tel a battu un record du monde un jour comme ça, on ne sait pas trop comment, mais en fait ce jour-là, il était dans un état de sublimation. Et en fait, où est-ce qu'il est allé chercher? Quelles sont les ressources qui ont fait que ce jour-là, il a fait une performance exceptionnelle? Alors bien sûr, vous allez me dire, oui mais nous, on n'est pas dans la performance exceptionnelle. On n'est pas des athlètes, on va pas battre des records du monde, on va pas courir plus vite que l'autre. Et ben pourtant, en fait, l'hyperformance, pour un créateur, un entrepreneur créatif, c'est notre quotidien. En tout cas, c'est ce que l'on vise par nos actions, nos activités, parce que l'on vise, parce qu'on fait un peu tous les jours. L'hyperformance, ça peut être un super épisode de podcast, une super vidéo, un bon produit qui trouve des clients, de belles ventes, un webinaire réussi, un coaching génial où vous avez vu dans les yeux de la personne que vous accompagnez, et ben d'un coup une lumière elle vous dit oh, ça là tu m'aides vraiment, là ça m'aide vraiment, ça me permet de d'avancer vraiment là-dessus. L'hyperformance en fait c'est comment nous arrivons à aider au mieux notre audience, nos clients, comment c'est plus que de l'utilité en fait, vraiment plus que de l'utilité, c'est comment on les aide au mieux, comment finalement dans leur mission, imaginons que ce qu'ils font est super important pour sauver l'humanité. Et nous, on doit les aider à faire ça, nos clients, en fait. Imaginons ça. Et en fait, notre performance à nous, notre hyperformance à nous, c'est de les aider à être vraiment encore meilleurs et vraiment à sauver le monde. Moi, en fait, c'est comme ça que je vois le coaching, l'accompagnement. Parce que mes clients, ce matin, par exemple, en coaching, j'avais une personne qui est dans son domaine, qui va aider beaucoup, beaucoup de gens par ses connaissances, ses compétences, mais aussi son histoire. Et à chaque fois qu'elle va aider une personne, finalement, eh ben, elle va l'aider à sauver son monde à elle, j'ai envie de dire. Elle va l'aider à sauver peut-être ses relations avec sa famille, avec ses enfants, son travail, ses relations avec elle-même, sa confiance en elle. Et en fait, c'est ce que nous faisons dans nos métiers de création, dans nos métiers d'entrepreneuriat, quand on est coach, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, vraiment, que vous soyez coach en vente et que vous aidiez un vendeur à mieux vendre, que vous soyez coach en podcast comme moi pour aider les gens à créer un podcast, que vous soyez coach en running, comme je le fais aussi par ailleurs dans certaines activités, que vous soyez coach en... en marketing, que vous soyez coach en coiffure, que vous soyez coach en éducation familiale, que vous soyez coach en immobilier, que vous aidiez des gens à acheter une nouvelle maison. Tout le temps, en fait, notre performance du moment, en fait, s'appuie vraiment sur des caractéristiques qui vont être les mêmes que celles des champions. Et Pullman reprend les 4 P du marketing, vous savez, le mix marketing, qui est un petit peu dépassé maintenant, hein, mais qui a été vraiment une abréviation mnémotechnique facile à retenir. Et en fait, il a choisi les 4 P, mais sauf que c'est les 4 P, en fait, de ce qui fait les champions. Le premier P, c'est la préparation. La préparation, c'est ce qui permet d'atteindre l'objectif, c'est ce qui permet de s'entraîner. C'est vraiment l'entraînement, la répétition des gestes et des situations. Amélie Mauresmo a dit « Le talent, c'est de savoir travailler ». Et ce week-end, j'ai regardé un documentaire sur Amazon Prime, le documentaire sur Giroud, l'histoire de Giroud. Et dedans, il y a Eric Cantona qui dit « Le travail t'amène à la confiance et avec la confiance, tu joues ». Et là, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi primordial. Parce que le jeu, j'en ai souvent parlé, c'est vraiment ce qui est pour nous, ce qui doit nous animer quand on crée du contenu. Quand on joue avec nos contenus, quand on joue avec nos idées, quand on joue avec finalement cette relation qu'on a avec l'audience, là on devient meilleur. Bah oui, on devient un peu hyper performant, j'ai envie de dire. Et pour nous, c'est vraiment important de travailler ça par la création répétée de contenu, d'épisodes, de mails, de formations qui nous amènent à cette maîtrise. Il y a souvent des personnes qui m'ont dit « Bah franchement, je suis impressionné par comment tu fais ça dans les podcasts, comment tu as fait ça, etc. » Ou alors l'autre jour, quelqu'un qui m'a dit « Mais ouais, dis donc, t'as créé ça. » Et je dis « Oui, mais moi, ça fait 5 ans que je fais du podcast. Moi, les épisodes de podcast, j'en ai peut-être fait 1 000 à peu près, quelque chose dans ce genre-là. Donc, tu peux pas te comparer à moi. C'est pas possible que tu te compares à moi. Mais si tu veux te comparer à moi, par contre, tu dois faire une chose. C'est regarder la répétition des enregistrements que j'ai fait. J'ai bien cité le chiffre de 1000 épisodes en 5 ans. Ça fait à peu près 200 épisodes par an. Bah oui, 200 épisodes par an. Regardez, hein, ça fait 2 jours sur 3 dans l'année à peu près, grosso modo. C'est pas pour rien en fait que j'ai commencé par faire du podcast en quotidien au départ. Là, c'est les 650e épisode de ce podcast. 650e épisode de ce podcast. Et c'est normal que quand vous ayez envie de créer un podcast, quand vous commencez, quand vous avez fait quelques épisodes de podcast, c'est tout à fait normal que vous considériez que vous n'avez pas la même aisance peut-être, que le même matériel, que le même son, que les mêmes choses que ce que je fais, ou que ce que fait un créateur de vidéos sur YouTube, que ce que fait un autre podcasteur. Moi-même, quand j'écoute certains podcasteurs, je me dis « Bah tiens, ça ce qu'il fait, moi j'aimerais bien le faire ». Et puis je regarde leur nombre d'épisodes et je me dis « Ah ouais, mais lui il en est à 1000, 1200 épisodes ». Ça paraît rien comme ça ce chiffre, simple double. Mais en fait, ça veut dire que là où moi j'ai 5 ans d'expérience, lui à son rythme de publication, il en a peut-être 10, 12, 13 ou 15 ans d'expérience. Beaucoup d'expérience. Et puis, je ne sais pas ce qu'il a fait, ses études, son métier qu'il faisait avant aussi. Tout ça, en fait, il y a tout un tas de choses qui jouent là-dedans. Et ça nous amène en fait à la répétition, l'entraînement. C'est vraiment un élément qui est vraiment important parce que c'est ce qui amène la maîtrise, la répétition du geste. Au départ, quand j'ai commencé à créer ce podcast, la chose la plus compliquée pour moi, c'était d'appuyer sur le bouton rouge « Enregistrer ». J'en ai souvent parlé dans les premiers épisodes. Mon entraînement du jour, c'est d'appuyer sur le bouton rouge « Enregistrer » et de commencer à parler dans le micro. Une fois que les premières secondes étaient faites, ensuite, c'était plus facile. Mais après, au bout d'un moment, ça commençait à nouveau à ripper. Et puis ensuite, quelques minutes. Et puis maintenant, je suis capable de faire des épisodes qui font jusqu'à 2 heures sans m'arrêter, avec peut-être une petite coupure. Ouais, tout à l'heure, là, j'ai fait un truc comme ça, là, comme ça, qui me plaisait pas. Bon, bah, j'ai marqué un petit temps d'arrêt. J'ai créé un petit espace là dans ma timeline, dans ma ligne d'enregistrement. Je reviendrai dessus, je modifierai ça, je ferai une petite coupe. Voilà, le montage sera terminé. Ça, c'est la répétition qui me permet de le faire. C'est pas un don naturel, c'est pas un talent. Ou comme le dirait Amélie Mauresmo, le talent, c'est de savoir travailler, de le refaire, de le répéter, de le faire régulièrement. Et là, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, parce que vous ne pouvez pas acquérir la maîtrise, vous pouvez pas maîtriser, que ce soit la vidéo, l'écriture, le podcasting, la photo, n'importe quoi, vous pouvez pas le faire sans vous entraîner. Et en fait, si vous voulez devenir, j'ai envie de dire, un champion de la création de contenu, bah, vous devez le faire. Vous devez le faire. C'est vraiment important. Mais si vous voulez devenir un champion des coachs, vous devez le faire aussi. Un coach qui ne coach pas, ne s'entraîne pas à coacher, et donc, il est pas bon. Bah, tout simplement, il est pas bon. Et on peut le prendre pour n'importe quelle profession. Un pâtissier qui ne pâtisse pas perd son savoir-faire. Un chocolatier qui ne fait pas de chocolat, bah ouais, bah, je suis gourmand, je vous prends des exemples de gourmandise, bah finalement, au bout d'un moment, il va oublier ses recettes. J'ai envie de dire, si vous arrêtez de faire du vélo pendant des années, bah, l'équilibre, vous ne savez plus trop comment le récupérer. Si vous n'écrivez pas régulièrement des mails, le jour où vous devez envoyer un mail, c'est compliqué. Ceux qui se font, par exemple, du copywriting, font des heures et des heures de copywriting, même plus que des heures, hein, comme ça. Ils s'entraînent même à réécrire certains mails, certains messages, à les recopier pour, en fait, rentrer un petit peu des habitudes comme ça et devenir, en fait, des meilleurs copywriters, comme des champions qui répètent ce qu'on appelle les gammes aussi en musique et en sport aussi. Et là, j'ai toujours été marqué, il y a très longtemps de ça maintenant, quand j'étais bénévole au Clermont Foot, qui était à l'époque en Ligue 2, maintenant il est en Ligue 1. Et en fait, un jour, il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé, c'était Bijota. Il est arrivé avec son expérience, il n'est pas resté très longtemps parce qu'un autre club l'a appelé, mais le premier truc qu'il a fait faire aux joueurs, c'était de faire des passes et des contrôles. Ça, c'est un truc que moi j'ai appris en débutant au foot, des passes et des contrôles. Et il y a un journaliste à côté de moi qui demande en conférence de presse, il dit « Mais pourquoi vous prenez des joueurs pros de ce niveau-là et vous leur demandez de faire des passes et des contrôles ?» Il leur a dit « Vous avez vu, quand ils font un contrôle, le ballon, il arrive trop loin de leurs pieds. » C'est-à-dire que quand ils contrôlent le ballon, au lieu que le ballon reste devant leurs pieds, il s'en va loin. Il dit « Maintenant, si vous mettez un adversaire, et ben l'adversaire il prend le ballon. » Et puis maintenant, regardez les passes. Et ben regardez les passes, au lieu d'être dans les pieds, elles étaient à côté. Ils en boitent des pros. Ils ont besoin de répéter la base technique. Et vous pouvez prendre n'importe quel champion. Un tennisman va faire des heures de coups droits. Pas seulement des coups droits frappés à fond. Oui, il va en faire. Mais il va aussi faire des coups droits, des séries de coups droits pour répéter le geste vraiment toujours, 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 toujours. Et ça, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important. Le deuxième P que Pullman a identifié, en fait, fait partie, j'ai envie de dire que la préparation, c'est peut-être, alors je dis pas que c'est le plus important, mais en fait, pour bien se préparer, il faut les autres P. Et le deuxième P, c'est le partage. Et le partage, en fait, l'idée, c'est que le champion ne devient pas champion tout seul. En fait, il y a aucun champion qui est devenu champion tout seul. Et les champions, ils ont un entraîneur, un préparateur, mais aussi une famille, un support, des gens qui les accompagnent. Alors bien sûr, les vrais grands champions, j'ai envie de dire, les plus champions de tous les champions, ont même des staffs un peu pléthoriques. Hein. Certains, ils ont kiné, masseur pour certains moments, et préparateur mental, préparateur physique, coach pour le jeu. Enfin voilà, vous avez trouvé ça. Regardez une équipe de foot, le nombre d'entraîneurs qu'il peut y avoir, avec des nutritionnistes. Bon, c'est logique. C'est totalement logique. Mais ça nous rappelle quand même quelque chose. C'est que la théorie des 10 000 heures de pratique de Malcolm Gladwell, il rappelle quelque chose. Et en fait, la plupart des gens ont retenu l'idée qu'il faut 10 000 heures de pratique pour maîtriser. Donc 10 000 heures d'entraînement pour maîtriser un geste. Mozart, etc. Vous pouvez prendre n'importe qui. Il avait fait des calculs en disant, bah, Tiger Woods, par exemple, si vous voulez devenir Tiger Woods, il faudra jouer au golf 10 000 heures pour arriver à avoir la maîtrise de Tiger Woods. Et encore, vous n'êtes pas certain de l'avoir. Hein. Vraiment, vous n'êtes pas certain de l'avoir. Et tout le monde est resté sur ces trucs-là en disant bah il faut des heures et des heures de pratique. Et ça, c'est ce que je vous ai dit dans, finalement, bah, le premier P, qui est celui de la préparation. Des heures et des heures d'entraînement, des heures de pratique. Mais il a donné une autre information qui est importante, c'est que pour avoir ces 10 000 heures, il faut tellement de temps de pratique que si vous faites ça tout seul dans votre coin et que vous répétez le mauvais geste sans avoir quelqu'un qui vous guide, et bah, ce geste ne sert à rien. Il sera pas bon. Il sera pas bon pour autant. Et puis surtout, il vous faut quelqu'un Il vous faut du support. Ce qui montrait en fait, c'est que les champions, les artistes, que ce soit les peintres, que ce soit les chanteurs, les musiciens, que ce soit les sportifs, tout le monde, en fait, il montrait que dans la pratique, il fallait des gens qui permettent à ces artistes, à ces sportifs, de vivre, de pouvoir progresser, de s'entraîner. Et donc, notamment, c'est la famille. Alors, des fois, ceux qui payent les entraîneurs, qui payent les repas, qui accompagnent. Vous avez aussi les clubs, les sportifs, les champions, ils ont des clubs, etc., qui les payent. Et ils sont, au bout d'un moment, ils sont payés pour ça. Mais avant d'être payés, le gamin, quand il s'entraîne, le jour, j'étais avec un champion, pas un champion, enfin, si, il était champion de France d'ailleurs, avec un sportif qui est rugbyman professionnel. Il a commencé le rugby à 4 ans. Et là, il a 25 ans, il est professionnel. Mais ça veut dire qu'entre 4 ans et 17 ans, ou 18 ans, quand il commence à toucher ses primes de match, qu'il rentre en centre de formation, etc., ça veut dire que pendant 14 ans, c'est sa famille qui l'amène aux entraînements, qui lui paye le matériel, qui paye les licences, qui le nourrit. Il le blanchit aussi, enfin voilà, normalement, la famille, c'est la famille qui fait ça. Puis il y a le club et tout l'entourage qui s'est créé autour. Et donc, c'est à cet entourage-là. Et puis, c'est important pour nous parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand on est seul dans notre coin, en tant que créateur, des fois, on est vraiment seul. Alors des fois, on a la famille qui comprend, puis des fois, la famille ne comprend pas. Donc, est-ce qu'on a un entourage proche ou pas ? C'est la question, par exemple, que ce matin, je posais en coaching à un de mes clients en disant, est-ce que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui comprend ce que tu fais, qui peut t'accompagner, avec lequel tu peux discuter d'entrepreneuriat, de ce que tu fais, qui comprend ce que tu fais. Moi, je suis un solopreneur, j'aime faire les choses seul. Mais on en discute avec ma femme. Et puis, il y a des moments où j'ai besoin d'avoir des gens pour m'entourer. Il y a quelques personnes qui m'entourent, que je fais appel. Alors, ça dépend un petit peu des cas. Mais par exemple, j'ai un coach pour ma marque, avec lequel j'ai fait un mastermind, j'ai fait des séances de coaching, qui m'a permis de revoir ma marque, d'avoir une vision extérieure, un appui psychologique pour parler de ma relation à l'argent, pour parler de ma confiance, pour parler de mon syndrome de l'imposteur que je peux avoir, etc. Parce que même si moi, j'aide beaucoup de monde avec ce que je fais en accompagnement, en coaching, avec mes contenus sur ces thématiques-là, j'ai aussi besoin d'avoir un regard extérieur de personnes qui m'aident aussi à progresser moi-même sur cet aspect-là, qui me mettent aussi face à mes propres réalités, mes propres questionnements, mes difficultés que je peux avoir par moment et qui vont m'aider aussi là-dessus. On peut aussi rejoindre une communauté, un mastermind, une communauté de personnes qui vivent la même chose que nous, que ce soit des payants ou pas payants, ça peut être des centres, vous savez, où il y a des bureaux partagés. En tout cas, est-ce que on est tout seul ou est-ce qu'on a des gens qui peuvent nous accompagner, nous aider? On peut aussi envoyer des mails, demander des conseils. Ça nous amène aussi dans l'appartenance globale, en fait, se dire, je vais me connecter avec des gens qui font la même chose que moi, qui ont les mêmes problématiques. J'ai écouté l'autre jour un podcast et un créateur sur TikTok disait, j'ai une personne qui fait la même chose que moi. Et au début, j'étais un peu suspicieux parce que j'ai l'impression que des fois, il copie mes contenus, qu'il faisait la même chose que moi et d'autres. Et puis, on s'est mis à discuter, on est devenus amis. Et maintenant, tous les mois, on échange sur ce que l'un et l'autre ont fait, sur ce qu'on vend, sur les vidéos qui marchent le mieux, pour en fait que les deux réussissent. Ils ont vu ce principe en fait de coopération, même s'ils sont en apparence concurrents, ils se disent, on n'a pas tout à fait la même communauté, pas tout à fait la même personne. Il y en a qui vont suivre les deux, et puis certains vont peut-être aimer plutôt ma manière de faire à moi, puis sa manière à faire de lui sur d'autres, etc. Et en fait, il a fait partie, il a recréé en fait un élément de partage, de coopération qui lui permet en fait de dire déjà je suis pas seul avec mon truc à moi qui est un peu bizarre et puis en plus tout simplement j'ai quelqu'un pour discuter, pour échanger et pour avancer, pour m'aider aussi à avancer. Et en tant que créateur, mais formateur, coach, vous pouvez aussi vous dire que non seulement vous pouvez en avoir besoin pour vous, pour avoir des gens qui vous aident, mais vous aussi vous faites partie des gens qui aident les autres. En fait, il y a des gens qui vont vous envoyer des mails, qui vont vous demander peut-être de l'aide payante, qui peuvent acheter vos produits, qui peuvent demander vos services. Et donc, cet aspect de paie comme partage, il faut le voir dans les deux sens, en fait. Mais tous les paies, on va les voir dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement pour vous, et pour moi, pour nous tous, on a besoin de cette aide-là, mais pour les personnes que l'on va aider avec nos contenus, ils ont aussi besoin de ça. Et on peut être cette personne-là, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on puisse être cette personne-là. Quand on est, si quelqu'un nous demande de l'aide, on peut lui donner de l'aide gratuitement. Et puis, il y a certains niveaux d'aide où ça va être payant, par de la formation, par des services, par du coaching. Et c'est normal. Et c'est vraiment une option qu'il faut avoir en tête, tout simplement parce que on en a besoin pour être plus performant en tant que créateur de contenu, entrepreneur. Le troisième P, c'est celui de la persévérance. Alors bien sûr, la persévérance, ça semble logique. Être capable de continuer, même quand ça ne se passe pas comme prévu, c'est un élément qui est vraiment important. Regardez aussi les résultats, décevants comme satisfaisants. Et en fait, que ni l'un ni l'autre ne nous arrête. C'est-à-dire que oui, on peut analyser ce qui est décevant. Oui, on peut analyser ce qui est satisfaisant. Mais en fait, c'est pas la finalité. Les champions, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils enchaînent les compétitions, les matchs, mais ils accordent pas plus de valeur que nécessaire à la victoire. Et leur objectif, c'est de gagner le point suivant. Ça, c'est ce que Pullman a montré. Et c'est un élément qui est important parce que il a aussi montré, parce que Pullman parle beaucoup de tennis, que c'est aussi ce qui faisait la différence, par exemple dans le tennis, entre les champions français et les champions qu'on a pu voir dans d'autres pays. On a certains champions qui, une fois qu'ils avaient eu la grande victoire, type Roland Garros pour Yannick Noah, derrière, font pas grand chose. Vous pouvez penser à aussi Marion Bartoli avec Wimbledon, qui prend sa retraite, je crois, 2 ans après, ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez regarder aussi des gens comme peut-être Gasquet, voilà, en tennis, qui n'a pas eu la carrière qu'il avait, alors que quand il était jeune, il battait Nadal. Bon, on peut pas dire que la carrière de Nadal et de Gasquet soit vraiment identique. Et en fait, c'est aussi la persévérance, mais aussi la vision qu'ils ont, la construction de qu'est-ce que représente la victoire et la défaite, quand on perd, quand on gagne, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on accorde trop de poids à la grande victoire, à chaque victoire, à la grande victoire? Et est-ce qu'on accorde trop de poids à la défaite, à chaque petit échec qu'on peut croiser? Moi, je le dis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup accordé trop de poids à l'échec. L'an dernier et cette année, j'ai lu pas mal de livres sur l'échec. D'ailleurs, je vais essayer d'avoir un des auteurs d'un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup, beaucoup marqué sur l'échec. Et si c'est pas le cas, je vous en parlerai d'un autre cas. Mais la vision de l'échec, elle est vraiment très importante. Et en fait, quand je vois ma fille, je dois me rappeler tout simplement que par combien d'échecs je suis passé pour arriver là où j'en suis. Par combien d'échecs vous êtes passé par là où vous en êtes. Ma fille, en fait, maintenant elle a 4 ans et demi, donc marcher, c'est devenu quelque chose qui est naturel pour elle. De courir, c'est quelque chose qui est devenu naturel pour elle. Mais au départ, à chaque fois qu'elle voulait marcher, quand elle a voulu commencer à marcher, c'était un échec. Systématiquement, c'était un échec parce qu'elle n'avait pas compris l'équilibre, parce qu'elle n'avait jamais fait ça, elle savait pas comment. Le seul modèle qu'elle avait, c'était des gens qui marchaient depuis longtemps. Ses parents, ses professeurs, enfin ses personnes de la crèche. Et puis, elle avait aussi les modèles de ceux qui ne marchaient pas, les autres bébés. Et puis, un ou deux bébés qui commençaient un petit peu à marcher, qui étaient dans le groupe, etc. Mais finalement, il fallait qu'elle trouve la clé pour passer de la situation à « nous, les bébés, on sait pas marcher » à « eux, ils savent marcher, comment ils font ?» Et comment elle a fait ? Eh ben, elle a essayé. Elle est tombée. Elle a essayé, tombée. C'est-à-dire qu'en fait, elle était programmée pour arriver à surpasser l'échec. Et en fait, nous sommes tous programmés à surpasser les échecs. Mais en grandissant, nous détestons l'échec. Nous détestons cet échec parce que l'échec, il est mal vu, il est puni. On a des mauvaises notes à l'école quand on se plante. Quand on rate quelque chose, en fait, on nous met un zéro, on nous met une mauvaise note. On dit qu'on n'est pas bon. Il y a des classements des élèves, des plus mauvais élèves. Alors, il y a même les prépas, vous savez, ils donnent la note dans un sens ou dans l'autre. Celui qui a la moins bonne note est cité en premier, ou alors celui qui a la moins bonne note, il est en dernier, donc il doit attendre. Mais en tout cas, il y a un côté un peu humiliation dans cette histoire-là. On n'aime pas ça. On n'aime pas être pointé du doigt parce que on a une mauvaise note ou quoi que ce soit. Donc on va tout faire pour éviter l'échec. Mais vraiment tout faire pour éviter l'échec. Et parfois même, carrément contourner l'obstacle en se disant, si je vais pas dans cet obstacle-là, pof, je suis sûr de pas échouer. Et là, c'est un vrai problème, en fait, parce que en tant que créateur de contenu, on va être confronté à des échecs en permanence. En tant qu'entrepreneur, on est confronté à des échecs en permanence. Il y a beaucoup trop de créateurs qui se découragent beaucoup trop tôt. En fait, il y a 80% des podcasts qui dépassent jamais le 10e épisode. Il y a beaucoup de chaînes YouTube où il y a 5, 6, 7 vidéos où le créateur, en fait, il fait sa vidéo et il met beaucoup, beaucoup d'énergie dans la vidéo. Et puis, en fait, la vidéo, logique, elle a aucun succès, quoi. Personne ne la voit. Mais c'est totalement logique. C'est totalement logique. Parce qu'au départ, quand vous débarquez sur YouTube, vous êtes juste une vidéo parmi, dans la même seconde, il va se charger peut-être de quoi regarder pendant 12-13 heures de vidéo. Donc une petite goutte d'eau comme ça, pas d'audience, personne ne la voit, les algorithmes qui connaissent pas. C'est logique que la vidéo ne marche pas, c'est logique. Est-ce que c'est vraiment un échec qui est dû à nous alors qu'on a mis toute l'énergie dedans? Ou est-ce que c'est finalement le système qui fonctionne comme ça? Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut se poser comme question et donc il faut être capable d'analyser. Il est totalement normal d'avoir une petite audience après 5 épisodes de podcast. C'est l'inverse qui est incroyable. Avoir quelqu'un qui déboule en première position des classements de podcast, en créant son premier contenu, en faisant son premier épisode de podcast, débouler en première position des classements de podcast, c'est incroyable. Sauf si c'est une personne qui a une audience déjà à côté. Là, je pense par exemple à Joy Phoenix qui vient de lancer un podcast. Elle déboule première du classement podcast sur Apple Podcast. Mais parce qu'à côté de ça, elle a des millions de personnes qui la suivent depuis des années sur YouTube. Et le jour où elle dit « Ouais, je viens de lancer un podcast », les gens suivent au moins sur le premier épisode. Et ouais, c'est comme ça. Ça peut paraître injuste, mais elle aussi, elle a commencé à zéro. Elle aussi, elle a pris des bides. Elle aussi, elle s'est pris des claques. Elle aussi, elle a connu l'échec. Et ça, c'est logique. Mais elle s'est pas arrêtée à ça. Il y a des vidéos qui ont fait scandale. Il y a des cours, j'ai fait des cours, où elle s'est pris des tonnes de commentaires sur des... on analysait des commentaires qu'elle a reçus sur des vidéos, sur des conseils beauté qu'elle donnait, où elle se faisait allumer, mais y compris par la presse, par les journalistes bien-pensants et tout. Et en fait, elle a appris de ça. Elle a appris à éviter peut-être certains sujets, à rebondir, à prendre peut-être des pincettes, à s'entourer de peut-être de gens qui pourraient l'aider, etc. Et tout est comme ça. En fait, développer un compte Instagram demande du temps. Et puis, il y a des contenus qui vont marcher, qui n'ont pas marché. Alors, par moment, ça va plus vite. Et puis, des fois, on gagne 10, 15, 20 abonnés d'un coup. Certains vont vous dire, ils gagnent 1000 abonnés par semaine. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Mais regardez le parcours qu'ils ont. Regardez la compétence qu'ils ont. Regardez aussi ce qu'ils ont fait avant. Depuis combien de temps ils sont là? Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Et puis, si vous regardez leurs vidéos, vous allez rendre compte que peut-être, des fois, il y en a, ils ont un réel qui fait 200 000 vues. Et qu'à côté de ça, ils ont un réel qui fait 400 vues. 1000 vues. Rien du tout. Presque rien. Aucun commentaire. Parce que tout le monde se plante. Mais tout le monde se plante. L'échec, c'est la nature, en fait, j'ai envie de dire. C'est la nature, c'est comme la science. La science est basée aussi sur la nature. C'est on essaye un truc, et puis si finalement ça marche pas, on va tenter autre chose. Et c'est l'expérience, je parle beaucoup d'expérimentation, c'est vraiment un élément qui est important. Vous devez être dans l'expérimentation. On est toujours dans l'expérimentation. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Personnellement, mes ventes de mes premières formations furent décevantes. J'étais au fond du gouffre. Vraiment, je le dis très clairement. Et l'autre jour, on m'a proposé de participer à un événement sur un fail. Et en fait, j'ai utilisé ce cas-là. On en discutait un petit peu. C'est comment finalement je me suis pas arrêté à ma première formation. Parce que ma première formation, faut juste se rappeler que je crée ce podcast qui s'appelait à l'époque Votre Coach Web. Je crée environ peut-être 300 épisodes de podcast, puis je dis je lance une formation. Et là, ce jour-là, en fait, je suis numéro 1 dans Apple catégorie marketing d'Apple Podcast. J'ai des centaines d'écoutes tous les jours. Je me dis, je vais en vendre. Et puis la première journée, j'en vends très très peu, mais vraiment très peu. Et le deuxième jour, encore moins. Et puis le troisième jour, peut-être zéro. Et puis je relance, et puis j'en vends pas. Et puis alors, le dernier jour, un peu de pré-vente, genre un petit peu plus. Puis de temps en temps, une par-ci, par-là. Mais moi, je m'imaginais, en fait, gagner des milliers d'euros, tout simplement, par le biais de cette formation, et non, ça n'a pas marché. Maintenant, sur les podcasts aussi, c'est pareil, les retours sur ce podcast, c'était très faible. À un moment donné, j'avais beau avoir de l'audience, je me disais, mais j'ai pas de retour, je vends des produits, je les vends pas, ce que je viens de dire. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai persévéré, j'ai choisi de persévérer, j'ai analysé, j'ai tenté de nouvelles choses, nouveaux formats, nouvelles manières de penser les choses, nouvelles manières de penser à mon utilité, ce que j'ai dit aussi sur l'épisode de la semaine dernière, repenser mon utilité, faire une pause quand il le fallait, et puis essayer de trouver comment réussir la fois suivante. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de m'arrêter sur la globalité, est-ce que c'est une réussite ou un échec dans sa globalité, c'est de considérer que chaque épisode de podcast est un nouveau point que je peux marquer ou pas. C'est pas contre quelqu'un, c'est un peu contre moi-même. C'est est-ce que cet épisode de podcast me permet, en fait, d'être plus utile? Est-ce qu'il me permet d'apporter, de vous apporter quelque chose? Et s'il y a un épisode de podcast qui ne le fait pas, comment le suivant, je peux faire en sorte que ce soit mieux? Qu'est-ce que j'ai manqué dans un épisode pour que ça marche pas? Et comment je fais faire, comment je peux faire pour que l'épisode suivant marche mieux, fonctionne mieux? Et là, il y a des choses qui ne dépendent que de moi. la structuration, comment je parle de l'idée, où je vais chercher l'idée, où je vais piocher l'idée, comment je suis aligné avec vos problématiques. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui me dit oh, « bah cet épisode-là, on dirait que tu as lu dans ma tête parce que c'est vraiment les questions que je me posais. » Tu arrives à faire des liens, ce jour j'ai reçu un message comme ça, en me disant « tu arrives à faire des liens sur des vraiment des liens avec des problématiques que je connais, que j'ai, etc. » Je me demande comment tu fais. Et en fait, la réponse, elle est dans la connaissance que j'ai, dans les échanges que j'ai, le dialogue que je peux avoir avec vous. Dans mon cahier, j'ai un truc, une de mes forces, en tout cas pour moi, j'estime que c'est d'accepter la discussion et de gérer la discussion et d'être à l'écoute. Je considère que c'est partie d'une de mes forces et que je dois m'appuyer dessus. Il y en a qui sont des créateurs vraiment dans leur monde, qui disent bah non, je veux pas de commentaires sur mes sujets, je veux pas de ça, je veux pas de ça, etc. Et pourtant, il faut quand même être à l'écoute. Donc ils le sont quand même d'une manière ou d'une autre. Mais vraiment, c'est extrêmement important de se dire bah il y a un épisode qui marche pas bien, comment je rebondis? Une formation ne marche pas bien, comment je rebondis? Est-ce que je peux la revoir? Est-ce que je peux la modifier? Comment je peux faire? Et j'ai bien fait de m'accrocher, j'ai bien fait de persévérer. Aujourd'hui, ce podcast, au moment où j'enregistre, est mis en avant sur Apple Podcast, sur la page d'accueil d'Apple Podcast. L'autre jour, j'ai vu ça, puis on m'a envoyé aussi des copies d'écran. Je pensais l'abandonner, hein. Et ben, il est mis en avant sur Apple Podcast, il y a une rubrique créée en bas, et à côté d'autres podcasteurs et d'autres entrepreneurs, dont certains, j'estime d'ailleurs, qui ont mieux réussi dans leur vente, dans leur conversion d'audience, etc. Et mon podcast, il est là. Donc peut-être vous l'avez découvert, peut-être vous avez découvert ce podcast par ce biais-là. Et puis aussi aujourd'hui, depuis quelques temps, je reçois des demandes de coaching en podcasting, en entrepreneuriat, que je n'avais pas il y a quelques temps. Et c'est pas justement juste seulement dû à cette mise en avant, parce que ça datait avant de la mise en avant. Et pourquoi ? Parce que je me suis mis à changer ma manière de penser, de parler de ce que je fais, parce que je me suis fait accompagner justement les coachs en marque, coachs en mindset, j'ai lu des livres sur ma relation à l'argent, je travaille ma relation à l'argent sur mon bureau là de tout de suite, j'ai un livre sur ma raison d'être, sur ce que je fais, pourquoi je le fais, j'ai aussi un livre sur ma relation à l'argent, sur mon syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire c'est tout le travail que je fais sur mon état d'esprit. Et puis je vous ai parlé de préparation mentale, je suis certifié en préparation mentale, ça m'a pris des heures pour être certifié en préparation mentale. J'ai des heures aussi de découverte de l'entrepreneuriat, j'ai aussi des lectures d'autres entrepreneurs, de ce qu'ils font, j'ai aussi des livres sur l'importance des marques, sur comment d'autres personnes ont construit des marques, comment ils font, quel est leur rapport, et puis comment aussi je peux vous aider vous, par le coaching, par l'accompagnement. Tout ce que je fais en coaching, en accompagnement, me nourrit aussi dans mes réflexions, et me montre aussi les questions, les questionnements que vous avez, et dont je peux parler dans le podcast, dans mes vidéos, dont je peux parler à droite à gauche. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important, c'est de se dire, on persévère, et on regarde les résultats, non pas comme étant quelque chose qui nous arrête, quand c'était un mauvais résultat, ça nous arrête net. Ou alors, on se dit, bah j'ai gagné, j'ai réussi à vendre un truc, c'est ma victoire finale. Non, en fait, c'est une étape. C'est soit une étape pour dire, bah écoute, c'est encourageant, soit c'est une étape pour dire, bon, ça n'a peut-être pas marché, mais regarde, regardons comment on peut faire, et on va faire un petit peu autrement, et on va voir si la prochaine fois, ça se passe mieux. Et puis le quatrième P, c'est le P de plaisir. Plaisir, et c'est pas seulement le plaisir de la victoire, c'est le plaisir de jouer, de faire son travail. Les champions ont ce plaisir, en fait, de faire ce qui est leur travail à eux, c'est-à-dire de jouer point après point, d'aller chercher peut-être par moment des choses qui sont difficiles, d'aller chercher, par exemple, un navigateur. Imaginez un navigateur solitaire qui part 40 jours, 80 jours en mer, tout seul, il prend les vagues, il prend la tempête, il prend du sel partout, il y a de l'eau partout et autres. Et pourtant, si pour persévérer, pour être performant, pour s'accrocher, bon, bien sûr, il s'est préparé. Mais il faut aussi qu'il prenne un certain plaisir à être là. Il faut qu'il prenne, qu'il retrouve aussi ce plaisir, bah, tel que les enfants. Quand j'étais gamin, moi, je jouais au foot des heures et des heures sans me lasser. On pouvait refaire les tournois. Puis après, on faisait des tournois de tennis, on faisait des tournois de, des compétitions de vélo, selon ce qu'il y avait à la télé, entre le Tour de France, Roland Garros, la Coupe du Monde, le Championnat de France, etc. On passait des heures à jouer ainsi, ainsi. Et en fait, là aussi, c'est quelque chose qui se gomme petit à petit en grandissant. Et ça, bon, c'est bien dommage. Et pourtant, ce plaisir, c'est vraiment important parce que, déjà, les champions, ils ont le plaisir de vivre, de jouer, de profiter de l'instant, de ce qu'ils vivent sur l'instant. Et pour nous, en fait, ce plaisir, c'est d'une part ce qui entretient la motivation, et puis c'est ce qui nous permet d'endurer les échecs. C'est vraiment ce qui nous permet de se dire, bon bah là, je me suis planté là-dessus, mais quand même, j'ai pris du plaisir dans ce que j'ai créé. Je pense que Et je le dis, par exemple, j'ai des formations qui ont été des échecs sur le plan des ventes, mais où je pense que j'ai pris du plaisir, que c'était bien ce qu'il fallait que... Je pense en tout cas que je suis content de ce que j'ai fait, parce que j'ai pris du plaisir à le faire, parce que j'ai pris du plaisir à mettre les informations que je voulais. Et bon, bah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que j'ai mal pensé les choses, parce que je me suis trompé dans l'audience, parce que j'ai mal compris les signaux, l'analyse de mes signaux, de ce que vous avez pu me dire. Mais en tout cas, j'ai pris du plaisir. Et ce plaisir permet d'endurer l'échec, mais aussi de le temps qu'on a passé dessus, de se priver de certaines choses. Et si vous n'avez aucun plaisir et que c'est dur à faire les choses, que vous passez du temps, que vous vous privez de certaines choses, de sorties, d'argent, que vous investissez de l'argent dans du matériel, mais que vous ne prenez aucun plaisir, il y a un moment donné, votre motivation, elle va disparaître. Et ce qui va disparaître avec, en fait, c'est que vous n'avez pas persévéré, bien entendu. C'est impossible de persévérer dans ces cas-là. C'est impossible aussi de s'entraîner, d'être dans la préparation. Et si vous n'avez personne en plus pour partager les bons moments comme les mauvais moments, c'est là où vous êtes dans l'abandon. On est à tout l'inverse de ce qu'on recherche. Et donc, c'est vraiment important, ce plaisir, de se dire comment je vais aller le chercher et de le décorréler du résultat pur, qu'il soit du résultat d'audience, du résultat de like, des résultats financiers. Il faut voir le plaisir dans l'action de ce que l'on fait et pas seulement dans le résultat que l'on va obtenir. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important et d'autant plus important qu'en fait, le plaisir, c'est ce que vous allez communiquer. C'est ce qui va transparaître dans ce que vous faites. C'est le plaisir vous permet d'avoir de l'enthousiasme, de le communiquer, d'être joyeux dans ce que vous faites, d'être impliqué, de vraiment vous dire « là, je suis bien ». Quoi. C'est le truc « je suis bien ». Se décorréler de ce qui va se passer après. Ça, c'est une grande leçon de préparation mentale. C'est le fameux flow, en fait. C'est de dire, là, je suis dans l'instant, là, tout de suite. Je me préoccupe pas de savoir si l'épisode, il va être téléchargé par 1000 personnes, 2000, 3000 ou 50. Je me préoccupe pas de savoir si mon appel à l'action va générer des ventes, va générer des appels ou si ça va rien générer du tout. Je m'en préoccupe pas de ça. Le seul truc qui me préoccupe, c'est comment je vous donne l'information qui me semble la plus utile pour vous aider à progresser. Et c'est comme ça qu'on se connecte à son plaisir, à son enthousiasme, à sa volonté que l'on a d'aider son audience, et donc finalement à la réussite de nos contenus, la réussite de notre audience, et donc notre réussite à nous. Parce que je vous rappelle quand même que nous sommes dans des... Quand nous sommes créateurs de contenu, notre réussite à nous passe souvent par la réussite de notre audience. Quel que soit. Alors, on peut parler de réussite financière, on peut parler de réussite sportive, on peut parler de réussite personnelle, on peut parler de réussite sur le plan de la santé pour certains, on peut aussi parler finalement de la réussite de passer le temps quand on est dans la création de contenu un peu, par exemple, humoristique, passer le temps, etc. Si vous avez quelqu'un qui, si vous êtes plutôt genre un humoriste, dans le cœur de l'humour, de l'entertainment, j'arrive même pas à le dire aujourd'hui, eh ben, si quelqu'un vient vous voir pour se détendre, et que vous leur donnez le sourire, bah finalement, vous avez réussi. Et donc, votre réussite, finalement, passe bien par la réussite de la personne à sourire alors que c'était pas une bonne journée. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce que nous faisons. Et pour arriver à faire ça, il faut arriver à aller toucher le plaisir, à savoir à quel moment on prend aussi du plaisir, parce que c'est ça qu'on va communiquer, c'est ça qu'on va partager. Bien sûr que tout ne sera pas simple. Bien sûr qu'il y a des moments galères. Bien sûr qu'on va échouer. Bien sûr qu'on va se planter sur des choses. Mais quel est le plaisir? Où est-ce qu'on va aller chercher le plaisir? Et comment on va aller le chercher? Et comment on va arriver à le faire dans notre quotidien? C'est pas juste une fois de temps en temps. Il faut que ça arrive régulièrement. Parce que notre but, quand on crée du contenu, c'est de le faire le plus régulièrement possible. C'est pas juste de créer une fois et puis de se dire, bah maintenant, ça y est, j'ai créé un épisode de podcast, j'ai terminé. Non. La persévérance, c'est de le faire régulièrement. L'entraînement, c'est de le faire régulièrement. Et donc, il faut pas prendre du plaisir juste une fois et puis se dire, bah voilà, maintenant, j'ai fait ça, top, terminé. Ou alors juste une fois, je le fais en me bouchant à moitié le nez en me disant, c'est super pénible et tout, je recommencerai jamais. Parce que dans ce cas-là, vous pouvez pas être dans l'entraînement, vous pouvez pas être dans la persévérance. Alors bien sûr, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Et c'est pour ça que vous avez aussi besoin de soutien. Donc c'est pour ça que, en conclusion de ce que je voulais dire, les 4 P sont super importants. Dans cette hyperformance, c'est super important parce que les sportifs, ils ont des méthodes de réussite. On peut dire que le sportif est décérébré, qu'il est con, qu'il... En fait, c'est faux. C'est totalement faux. Et moi, j'ai beaucoup d'entretiens avec des sportifs. Et en fait, il y a des sportifs qui ont fait des très grandes écoles, qui ont des cerveaux vraiment tellement bien câblés, qui ont des visions d'ingénieurs qui décortiquent exactement tout ce qu'ils font, etc. Que vous pouvez pas vous limiter en disant, Le sportif, en fait, il utilise ses jambes, il utilise son cœur, mais il utilise pas trop sa tête. Non, en fait, les sportifs qui réussissent, ils assemblent tout un tas d'éléments. Tout un tas, ils ont une vision, ils déconstruisent beaucoup de choses et ils arrivent petit à petit à rassembler ce dont ils ont besoin. Et ce qu'a vu Bertrand Pullman dans son livre, c'est que les sportifs reviennent toujours sur ces 4 P. La préparation, le partage avec son entourage, d'avoir des gens qui nous entourent, la persévérance et le plaisir, la recherche du plaisir. Et en les comprenant, vous allez comprendre ce dont vous avez besoin pour mieux créer, pour plus créer, pour créer plus régulièrement, pour développer votre marque, votre vie créative, votre vie entrepreneuriale, pour proposer des choses qui font du sens pour vous et qui font du sens pour votre audience. Et qui font tellement de sens pour votre audience que si vous prenez ces 4 P, vous allez dire que si vous aussi vous en avez besoin, si vous en avez besoin vous, votre audience en a aussi besoin. Et qu'en fait, dans les contenus que vous leur proposez, dans les programmes que vous imaginez, dans les produits que vous leur proposez, vous pouvez aussi vous positionner sur l'un de ces 4 P. Vous pouvez aider des gens à mieux se préparer. Vous pouvez aider des gens à persévérer. Vous pouvez aider des gens à prendre du plaisir dans ce qu'ils font parce que vous, vous avez des méthodes pour les aider à prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui va être dans le partage en les aidant à partager les moments difficiles, les moments positifs, en les aidant finalement à avancer. Alors le partage, c'est facile. La préparation aussi, c'est facile parce que on voit très bien les notions de coach. On voit très bien les groupes de soutien, les communautés. On voit très bien un peu les entraîneurs, j'ai envie de dire, même si c'est dans le contenu. Ça, on le voit très bien. Donc maintenant, vous allez me dire, dans la persévérance, on peut le voir aussi un petit peu dans les entraîneurs, on peut le voir aussi dans le soutien mental, on peut le voir dans la préparation mentale, on peut le voir dans le soutien, j'ai envie de dire, psychologique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et puis, on peut aussi les aider à se concentrer sur le plaisir, ou en tout cas, vous avez même des activités où vous pouvez vous dire, finalement, on peut leur éviter ce qui leur déplaît, pour le faire à leur place, même si on veut. Et là, par exemple, c'est ce que font des freelances. Un freelance, par exemple, moi, je déteste la comptabilité. Bon, c'est ma coopérative d'activité qui le fait pour moi. En fait, moi, je me concentre sur le plaisir de créer du contenu, de créer mes podcasts, de créer mes vidéos, de créer du contenu pour Instagram. Je me concentre là-dessus. Et la comptabilité, c'est des gens qui, j'espère pour eux, prennent un certain plaisir à le faire. Mais en tout cas, c'est pas moi. Et si vous êtes freelance, c'est aussi une manière, finalement, de dire, moi, j'aime bien la compta. Et je vais faire la compta pour d'autres gens qui aiment pas ça. Et en fait, ça va leur faire plaisir de pas la faire. Et puis moi, si ça me fait plaisir d'aider les clients à la faire, en fait, le deal, il est bon. J'ai envie de dire que le deal, il est bon. Et donc, ils seront contents de vous donner de l'argent parce que finalement, vous leur levez un poids. Vous leur apportez plus de plaisir en leur enlevant quelque chose qui leur fait pas du tout plaisir. Voilà ce que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que ces 4 P de l'hyperformance, j'ai failli dire hyperperformance, mais les 4 P de l'hyperformance sont vraiment aussi une clé de compréhension de ce que l'on peut faire, vraiment, vraiment de ce que l'on peut faire, tant pour soi que pour les autres, et comment, par nos contenus, par nos produits, par nos services, on peut apporter ça, on peut vraiment le faire pour notre audience, on peut le faire pour des clients, et puis comment aussi on peut utiliser ces 4 P pour nous-mêmes être dans l'hyperformance. Voilà. Mais écoutez, sur ce, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est un épisode qui, je trouve, reflète bien un petit peu ce qu'on peut faire en préparation mentale, ce qu'on peut faire aussi sur l'aspect mindset. Je le répète, maintenant, tous mes programmes dans lesquels j'ai de l'accompagnement, du coaching, il y a des programmes que vous voyez pas, qui sont pas sur mon site bertrandsoulier.com, mais si vous m'envoyez un petit message, on peut en parler, notamment des programmes d'accompagnement sur plusieurs mois, avec des points toutes les semaines, comme ça, où on discute d'un point précis, on avance sur un point précis, je vous donne du boulot, vraiment, je le dis, vraiment, je donne des exercices à faire, qui sont pas des exercices notés, mais qui sont des exercices pour vous aider à progresser, et qui vous permettent, par exemple, si vous voulez lancer un podcast, si vous voulez développer un podcast, si vous voulez lancer une vie entrepreneuriale, développer vos ventes autour du contenu que vous avez déjà créé, on se met d'accord sur nos objectifs, et puis moi, je vais inclure dedans des exercices, des outils, je vais vous donner des outils, par exemple, pour créer plus vite votre propre podcast. Le but du jeu n'étant pas que vous deveniez un podcasteur qui passe des heures à créer du podcast, mais que vous soyez un podcasteur qui partage son message, son plaisir, dans le message qu'il va partager avec l'audience, et en ayant derrière peut-être beaucoup moins de travail sur le plan technique. Ça ne veut pas dire que je fais à votre place, ça veut dire aussi que je vous partage mes outils pour arriver à le faire plus rapidement, comment vous entraîner aussi pour le faire plus rapidement, et que je vous partage aussi mes méthodes, voilà, tout simplement. Donc si vous êtes intéressé par cet aspect-là, par ces accompagnements, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, vous pouvez venir me voir sur Twitter, sur LinkedIn, par mail, sur Instagram, même sur TikTok, Bertrand Soulier. Je parle beaucoup de sport hein, sur Instagram, mais je parle pas que de ça. Sur LinkedIn, je parle plus de podcasts. Sur mon site, je parle un petit peu de tout. Et puis sur Twitter, un petit peu de tout aussi. Donc vous m'envoyez un message là où vous me trouvez, on en discute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, parce que je vous rappelle que l'une des clés, c'est la régularité et la persévérance. Ciao, ciao les créateurs.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.